BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir. Pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Et nos talents non fongibles sont en place, nos NFT, rien qu'à nous. Ils sont là, Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue Claire Balva, VP Stratégie pour Desblocs. Et Owen Simonin, il est à la tête de Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Et sa chaîne YouTube Hacher avec un H au début, bien sûr. Mais d'abord, avant de parcourir l'ensemble des actualités de la semaine ensemble, le sommaire à suivre. Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant pour mesurer ce que les cryptos ont dans le ventre. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume, ravi de vous retrouver.
Ravi de vous retrouver aussi. On espère que vous avez passé de bonnes vacances, Vincent. Oui. Vous avez l'habitude de surfer, vous, l'été, hein, Vincent?
Oui, parfois, de temps en temps, mais cette année, j'ai préféré la campagne.
Ah voilà, plus campagne, voilà. Même si sur les cours des cryptos, vous nous habituez à surfer effectivement aussi, avec ces seuils techniques à ne pas rater. Tiens, le cours du Bitcoin qui lui reste bloqué quand même, après son récent record historique au mois de mars, ça reste bloqué, les compteurs restent bloqués sous ce record. Et le tout semble s'installer, Vincent. Où en est-on dans le cycle tendanciel du Bitcoin?
Oui Guillaume, alors vous avez relevé deux points intéressants. Ça fait effectivement six mois que le cours de Bitcoin s'est mis en pause sur son record historique. Il l'a atteint en mars dernier, il l'avait atteint d'ailleurs trop rapidement. Six mois de transition latérale. Bon, je rappelle quand même qu'en amont, le prix du marché avait quadruplé depuis les 15 000 dollars de novembre 2022. Donc voilà, c'est une durée de pause qui n'est pas finalement si exceptionnelle au regard du cycle monétaire de Bitcoin. Deuxième chose que vous avez relevé, le niveau du doute qui est pas loin d'atteindre son paroxysme, un niveau de sentiment pessimiste qu'on n'a pas vu depuis à l'époque la fin du bear market. À l'automne 2022, je vais vous donner un exemple sur l'année qui vient des 12 derniers mois. Il y a eu 45 jours considérés comme étant des jours de peur. 25 sont concentrés sur le dernier mois. En fait, ce qu'on observe en général, c'est lorsqu'on a ce sentiment pessimiste qui est proche de son paroxysme, on n'est pas loin des phases de correction. De toute façon, ma réponse, cher Guillaume, c'est toujours la même, patience. Ce que tout le monde doit bien avoir en tête, c'est que le cycle haussier post-halving du Bitcoin, post le quatrième halving du mois d'avril dernier, en fait, n'a tout simplement pas commencé. Et ce que je peux enfin vous dire, c'est que la saisonnalité statistique Bitcoin, elle est hyper favorable sur les mois qui s'étendent d'octobre à décembre. Alors simplement patience, ma conviction reste que ces prochaines semaines, ces prochains mois, Bitcoin finira par profiter de la baisse des taux d'intérêt du marché.
Et on se souvient, vous nous parliez avant les vacances de l'automne. Hein. C'est à l'automne, nous disiez-vous, que les choses pourraient se débloquer. Bon, vous gardez cet agenda, ce calendrier, évidemment, ça reste hypothétique. Oui. Mais voilà, ça donne une idée pour ceux qui nous suivent et qui nous regardent. Les chiffres de l'emploi américain ont été publiés tout à l'heure. Ils sont pas terribles, ces chiffres de l'emploi aux États-Unis, les chiffres mensuels. Est-ce qu'il y a un impact sur le Bitcoin aujourd'hui?
Alors, j'ai envie de dire, quand même, ils sont pas terribles. Le pire est quand même évité. C'est-à-dire que tout le monde avait cette crainte du scénario de catastrophe, c'est-à-dire la poursuite de l'augmentation du taux de chômage, et là autant vous dire que Bitcoin serait à 50 000 dollars en baisse de 10%, c'est pas le cas, et d'ailleurs on voit une réaction positive sur les actifs risqués. Après, c'est pas non plus un rapport qui répond à la question de savoir si l'économie américaine tend vers la récession économique, je dirais rapport mitigé, stand-by, statu quo. Et la prochaine étape, c'est l'inflation US mercredi prochain.
Vincent Gann, merci beaucoup. Vous nous accompagnerez à nouveau très régulièrement cette saison dans les pros des cryptos. Merci beaucoup Vincent d'avoir répondu une nouvelle fois à l'appel de BFM Business. Et on va refaire la semaine dans un instant, bien sûr, avec nos experts, nos pros. On parlera des ETF Bitcoin Spot. Plus grosse sortie de capitaux depuis le mois de mai, c'était ces derniers jours. Qui sort ces Bitcoins? Pourquoi faire? On essaiera d'apporter des réponses. Kamala Harris, elle, est la nouvelle candidate démocrate. Enfin, la nouvelle depuis la fin de la saison dernière des pros des cryptos. Entre-temps, Joe Biden a jeter l'éponge et donc Kamala Harris est désormais candidate. Quel est son programme en matière de crypto? Nos pros des cryptos ont décortiqué effectivement ses propositions sur le Bitcoin et autres. Et puis on parlera de la fiscalité au Japon. Parce que alors pour le coup, le Japon est peut-être sur le point de frapper un grand coup en baissant fortement l'imposition sur les cryptos. C'est spectaculaire. Et pourquoi faire d'ailleurs? Pourquoi le Japon compte-t-il baisser la fiscalité sur le Bitcoin? On va poser aussi cette question. C'est votre machine à concentrer l'essentiel chaque vendredi. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Claire Balva, ça va Claire?
Ça va.
On est ravis de vous retrouver. Bah, pleine forme, voilà, c'est la rentrée. On avait fait une première émission spéciale rentrée la semaine dernière. Puis là, on vous accueille à nouveau chaque vendredi à nos côtés. Claire Balva ainsi qu'Owen. Owen Simonin, ça va Owen?
Toujours.
Bon, et depuis la fin de la saison dernière, il y a eu alors non seulement une nouvelle candidate démocrate aux États-Unis, mais ici en France, on a aussi un nouveau Premier ministre.
C'est vrai.
On va, à l'occasion des prochaines émissions, on regardera la vision crypto de Michel Barnier.
S'il y en a une.
Et voilà, c'est le défi que je vous propose de relever pour les prochaines semaines.
Il faudrait l'inviter en plateau.
Ah bon, on va tenter, bien sûr, on va tenter. Mais voilà, ce sera intéressant de voir s'il s'est déjà exprimé sur ces questions-là. Bref, en attendant de voir ce que Michel Barnier, de comprendre ce que Michel Barnier pense des cryptos, regardons déjà les chiffres et les faits. ces derniers mois, les volumes et les flux sur les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, ces derniers jours aussi, quelle tendance, quels sont les points saillants que vous avez pu remarquer, Owen ?
On parlait beaucoup des ETF Ether, puisqu'ils sont nouveaux sur ce marché, et que pour l'instant, il y a plus de flux sortants que de flux entrants, la plupart du temps depuis que le produit est listé. Là où ça fait un peu de bruit cette semaine, c'est que mercredi, il y a eu un peu moins de 300 millions de dollars de flux sortants des ETF Bitcoin. Ce n'était pas arrivé depuis le mois de mai. Et pour le coup, ce qui ne concernait que l'Ether commence à concerner Bitcoin, puisque c'est une série de 5 jours consécutifs de flux sortants. Alors, toujours très délicat de savoir c'est l'argent de qui et où est-ce qu'elle va, puisque c'est l'argent d'un produit, mais on sait qu'il y a évidemment une majorité d'institutionnels, mais tout le monde peut finalement souscrire à un ETF. Donc c'est très délicat de savoir quel type de portefeuille et d'investisseur est-ce que ça représente exactement. Malgré tout, on voit que ça peut avoir un impact, en tout cas c'est plutôt cohérent avec la baisse globale sur le marché. Quand on regarde les volumes totaux du marché des cryptos et les volumes sortants du marché des ETF, il y a peu de chances que ce soit ces volumes sortants qui fassent baisser l'entièreté du marché. Par contre, on sait que la rumeur et la peur impactent énormément le monde des cryptos. Et tout le monde regarde les flux sortants et les flux entrants des ETF. Peut-être que par effet rebond, ça vient augmenter la peur, le FUD, et ça fait vendre certains investisseurs du marché crypto de voir que les ETF ne rapportent plus encore et encore des capitaux, comme ça avait été le cas depuis le listing de l'ETF de BlackRock en début d'année.
Oui. Il y avait tout ce storytelling, et c'était une réalité hein, sur les ETF, voilà, ces afflux de liquidités qu'apporteraient, que permettraient les ETF, puis on voit qu'il y a aussi des retraits parfois sur les ETF. Donc voilà.
Et 4% de retraits sur une seule semaine pour Bitcoin.
Effectivement, ce sont les plus gros retraits depuis le mois de mai. Hein,
c'est ça, et l'une des pires semaines dans le sens où 4% de recul sur 5 jours.
C'est pas mal, effectivement. On a aussi repéré ces derniers jours que Crypto.com, la plateforme, est passée devant Coinbase, figurez-vous, devant Coinbase pour les échanges en dollars pour la première fois. Voilà, ça c'est aussi un des moves de cette rentrée. En tout cas, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Claire, le candidat démocrate à la présidentielle US a donc changé, c'est désormais Kamala Harris. Quel rapport entretient-elle avec l'univers crypto ? Est-ce que son programme, d'ailleurs, contient des mesures vis-à-vis des cryptos ?
Alors, ce qui a fait pas mal de bruit cette semaine, c'est que les crypto-monnaies sont maintenant acceptées comme moyen de financement dans la campagne de Kamala Harris. On voit que Kamala Harris, mais les démocrates plus largement, changent un peu de braquet sur le sujet crypto, tout simplement parce qu'il y a une proportion significative des électeurs. Je pense aux swing states, vous savez, les états clés à aller chercher pour les candidats à la présidentielle américaine. Dans ces états, on voit qu'il y a parfois jusqu'à 20% des Américains qui ont de la crypto. Donc forcément, on peut pas se permettre d'avoir une politique qui est ouvertement anti-crypto si on veut aller chercher ces 20% de voilà. Donc là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que le comité d'action politique de Kamala Harris accepte désormais les cryptos. Alors pas toutes évidemment, mais quand même un bon échantillon. Il y a Bitcoin, Ether, il y a le Matic, il y a le Shiba Inu. Enfin, il y a tout un tas de crypto-monnaies qui sont acceptées pour financer la campagne de Kamala Harris. C'est un comité qui finance vraiment directement cette campagne et la mèche a été vendue par quelqu'un de Coinbase. Puisque c'est avec Coinbase Commerce que travaille le comité d'action politique de Kamala Harris. On a vu quand même aussi que Kamala Harris a fait quelques propositions qui n'ont pas plu au milieu crypto, notamment celle de taxer les gains non réalisés pour les ultra-riches. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, alors c'est le cas en France par exemple, mais les gains qui sont taxés sont les gains réalisés, c'est-à-dire une fois que vous avez transformé vos cryptos en monnaie fiduciaire. Et là, c'est vrai que c'est une proposition audacieuse et clairement pas dans le sens du secteur crypto. Donc, ça n'a pas plu du tout. On sent bien finalement que cette proposition n'est plus vraiment à l'ordre du jour. En tout cas, c'est pas très clair. Et on voit que Kamala Harris, sur les marchés prédictifs, je pense notamment à Polymarket, a nettement baissé par rapport à Donald Trump, alors qu'il y avait eu une vague pro-Kamala Harris une fois qu'elle avait annoncé sa candidature après l'arrêt de la candidature de Joe Biden.
Elle a perdu un peu de terrain là, récemment. Donc,
Milliard de dollars de paris sur les marchés prédictifs crypto sur l'élection américaine. Il y a du budget qui est mis et autant dire que c'est un événement qui va être surveillé de très près par la communauté.
Oui, c'est très clair. Alors, Donald Trump, lui, répète encore cette semaine qu'il fera des États-Unis la capitale. C'est comme ça qu'il s'exprime, hein, Donald Trump. Les États-Unis deviendront la capitale du Bitcoin et des cryptos. Bon, voilà, les États-Unis, c'est un pays, c'est pas une capitale, mais c'est pas très très grave. On n'est pas à ça près. En tout cas, les fils de Donald Trump, eux, ont lancé un projet crypto qui s'appelle comment ? World Liberty Financial. Donald Trump, d'ailleurs, a apporté son soutien à ses fils dans ce projet crypto. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'ils proposent, les fils de Donald Trump ?
Alors, c'est deux de ses fils, donc Eric et Donald Jr. Et c'est un peu paradoxal ce qu'ils proposent. Alors, ils proposent un projet qui pour l'instant n'est pas sorti. D'ailleurs, ils mettent en garde, attention aux arnaques. Pour l'instant, c'est une idée qui est en train d'être développée, elle n'est pas live. Ce serait un produit de finance décentralisé qui aurait pour but de mettre en avant et de soutenir le dollar américain. Pour justement éviter qu'il y ait des stablecoins euro ou des stablecoins yuan qui prennent de plus en plus d'ampleur. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le dollar américain écrase déjà toutes les autres monnaies fiat du monde en termes de stablecoin. Je ne sais pas dans quelle proportion exactement, mais plus de 95%. Donc c'est déjà une hégémonie dans le monde de la crypto-monnaie. Et surtout, la finance décentralisée se veut être une finance la plus inclusive possible, qui permet tout à tout le monde en fonction de son envie et de ses besoins, en donnant les mêmes droits et les mêmes moyens à chacun. Et donc là, ce serait pour but de faire quelque chose de très ouvert, mais très centré sur le dollar, qui est déjà... Je crois que les deux plus gros stablecoins euros, ça doit représenter 75 millions d'euros dans le monde, alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliards avec Tether sur le dollar américain. Donc c'est un peu paradoxal, ça semble être un discours qui peut être difficilement audible par ceux qui connaissent et qui sont déjà experts, mais la famille Trump semble vouloir créer, innover, entreprendre dans le domaine des cryptos et apparemment se lancer dans la finance décentralisée, si on peut l'appeler comme ça.
Voilà, mais en même temps au service du dollar.
Très centralisé.
Très paradoxal.
Ouais. Et c'est en fait ce qu'on voit, mettant avec Donald Trump qu'avec Kamala Harris, c'est finalement une démarche très opportuniste sur ce sujet crypto, puisqu'on voit bien que leurs programmes sont pleins de contradictions et finalement ils veulent faire de la crypto pour aller chercher des électeurs, mais derrière ça ne veut pas dire qu'ils ont des convictions.
L'un des amis, l'un des soutiens de Donald Trump, c'est Elon Musk. Alors Elon Musk, il doit se frotter les mains là, parce que dans l'affaire Dogecoin, il a gagné. Elon Musk, accusé dans une plainte il y a 2 ans d'avoir manipulé le cours du Dogecoin au travers de ses tweets, a finalement gagné en justice. Qu'est-ce qui a fait pencher la décision du juge ?
Les investisseurs lui demandaient quand même 250 milliards de dollars d'indemnisation, ce qui était énorme. Alors, c'était pas dit que, même s'il était condamné, il allait devoir payer ce montant, mais c'est vrai que c'était un fort enjeu, même pour Elon Musk. Alors, ce qui a fait pencher la balance, tout simplement, c'est la nature des propos d'Elon Musk pour lesquels il était accusé finalement. Et en fait, quand on lit notamment les tweets qu'avait fait Elon Musk sur le Dogecoin, c'est vrai que c'est risible. C'est-à-dire qu'il disait le Dogecoin est la future monnaie de la Terre, j'en ai acheté pour mon fils, je vais envoyer un vrai Doge sur la Lune dans une fusée, et puis c'est le Dogecoin qui financera la mission. Et en fait, ce qu'a dit le juge, c'est que ces propos-là n'étaient pas de nature à inciter vraiment à l'investissement pour un investisseur raisonnable. Donc en filigrane, ce que dit le juge, c'est que si vous avez investi en lisant les tweets d'Elon Musk, c'est que franchement vous n'avez pas beaucoup réfléchi. Donc et honnêtement, c'est vrai que quand on lit ces tweets, c'est compliqué de se dire qu'un investisseur raisonnable a pu adhérer à ça de manière vraiment sérieuse. Maintenant, ça reste une appréciation subjective du juge, en l'occurrence très favorable à Elon Musk. Et ça va être intéressant de suivre, je pense, d'autres futures affaires sur ces sujets-là pour voir quelle est la liberté d'expression de quelqu'un d'aussi influent qu'Elon Musk sur les cryptos et quelle est la frontière entre le sérieux et la blague ostentatoire.
C'est les pros des cryptos, votre rendez-vous hebdomadaire. On concentre l'essentiel de l'actualité en à peine une vingtaine de minutes. On vous rappelle le cours du Bitcoin en ce vendredi après-midi. Vous pouvez peut-être nous suivre aussi ce week-end. On est en direct sur BFM Business le vendredi après-midi, en rediffusion, en replay, disponible sur notre chaîne YouTube BFM Crypto tout le week-end. Le cours du Bitcoin aujourd'hui est à 57 000 $. C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Crypto. Claire et Owen, êtes-vous prêts pour cette première question crypto qui claque de la saison ?
On est prêts.
Ils sont prêts. Voici la question. Les performances du Bitcoin cet été vous ont-elles enjoué, étonné, énervé, frustré ? Vous avez chacun 2 secondes de réflexion pour répondre. Owen, Claire, je vous laisse bien réfléchir. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis tranché. N'hésitez pas à participer. La question, donc, sur notre fil XBFM Crypto. N'hésitez pas à nous laisser aussi vos commentaires en bas. On essaie de rebondir dessus chaque semaine avec nos pros des cryptos. Les performances du Bitcoin cet été vous ont enjoué, étonné, énervé, frustré, Claire ?
Moi, je dirais indifféré.
Oh, franchement. Non, c'est pas possible. Owen ?
Je dirais frustré. Je commence à être impatient.
Ah ! Impatient, mais pour... Enfin, quoi ? Il nous l'a dit tout à l'heure, Vincent Gann nous disait, et il nous le disait déjà à l'été, début de l'été, au mois de juillet, tout se passera cet automne au mois d'octobre.
Mais en fait, je suis plutôt d'accord avec lui, et c'est également ce que je regarde. Je suis d'ailleurs très souvent en accord avec ses analyses. Mais il y a un truc qui m'énerve profondément, c'est que, par définition, si c'est certain, c'est pas déjà pricé. C'est déjà pricé, pardon. C'est-à-dire que si on est sûr que le prix va monter, pourquoi le prix ne serait pas déjà plus haut aujourd'hui ? Et ce qui m'embête encore plus, c'est que tout le monde... Un débutant, un gros investisseur, quelqu'un qui gère une entreprise ou qui détient juste un petit peu de crypto-monnaie, tout le monde parle comme si, ça y est, ça va exploser. Dans 2 mois, ça va exploser. Alors, est-ce que ce ne serait pas une prophétie autoréalisatrice ? Je l'espère très fortement. Mais il y a ce truc qui me gêne, puisque c'est contre-intuitif et c'est surtout contre les valeurs mêmes de la finance, où tout le monde parle comme si c'est certain, ce n'est qu'une question de temps, une question de semaine, Bitcoin explosera à la fin de l'année. Ça me fait peur. Plus j'avance, plus je sais qu'il n'y a pas de certitude. Et quand on veut faire un bras de fer avec le marché, on peut souvent se faire très mal au bras. Donc je prends un petit peu de recul, mais c'est vrai que je commence à être impatient de voir le cours tiré à la hausse.
Bon, effectivement, alors nos auditeurs et téléspectateurs aussi ont voté. Comment avez-vous réagi face aux pertes du Bitcoin cet été, toujours sous le record du mois de mars dernier? 63%, vous êtes frustrés comme Owen. 63% d'entre vous, vous avez voté frustrés. Enjoués, 16%. Il y a des gens qui ont été enjoués. Après, ça dépend quand vous avez investi.
Il y en a qui peuvent parier à la baisse, voilà, aussi.
Et puis, exactement, puis à 57 000, la plupart de ceux qui ont investi dans le Bitcoin restent en plus-value, a priori.
Oui,
57 000, ça reste quand même très favorable. Il faut qu'on parle aussi de ce scandale FTX et des suites cette semaine. Il y a eu de nouveaux développements. La SECON compte s'opposer à un remboursement de crypto-monnaies à des clients de FTX. C'est quand même bizarre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, s'opposer peut-être pas, parce que pour l'instant c'est en cours de clarification, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi ? Parce que selon eux, à cause de la volatilité de certains stablecoins qui sont censés être stables, eh bien les stablecoins pourraient être des securities, des valeurs mobilières. C'est fou, ils n'ont jamais utilisé cet argument, c'est un angle qu'ils découvrent pour la première fois. Et donc il se pourrait, pour des raisons de protection du consommateur, et évidemment de l'égalité, qu'ils empêchent ou qu'ils retardent et qu'ils empêchent tout simplement FTX de rembourser les gens avec des stablecoins qui pourraient être des securities. Beaucoup de gens vont avoir du mal à comprendre que c'est dans leur intérêt. On n'a pas l'impression que c'est pour protéger le consommateur. En tout cas, il semblerait que ce soit pour une question légale, la même question de fond qu'il y avait eu sur les ETF Bitcoin, les ETF Ether et sur plein d'autres procès encore en cours vis-à-vis de la SEC. Qu'il y ait une demande de clarification et donc des délais supplémentaires et que peut-être les gens ne puissent pas être remboursés de cette façon-là.
Enfin, si les stablecoins sont des securities, ça pose quand même un paquet d'autres problèmes.
Certains stablecoins, probablement dans certains usages, mais ça va poser. Mais tout peut être une security. C'est ça qui est dingue dans la lecture de la SEC et qui va probablement également se clarifier avec l'élection présidentielle américaine.
Dans un instant, on va parler d'une nouvelle super favorable à l'écosystème crypto au Japon. Mais d'abord, il faut passer pour aller au Japon aussi par la Corée du Nord. On entr'ouvre la porte. Ça y est, on y est. On est en Corée du Nord. Et là, ce qu'on constate n'est pas super jobard, pas super crypto-friendly. En même temps, ils sont rien du tout friendly, hein, en Corée du Nord, faut le dire clairement. Le FBI, en effet, alerte dans une note. Il nous informe, le FBI, que les hackers nord-coréens visent désormais de manière agressive les sociétés crypto.
C'était déjà le cas depuis un petit moment, mais là, pour le coup, le FBI, il a juste précisé en disant « Attention, la Corée du Nord, particulièrement Lazarus Group », qui sont très connus pour essayer de voler de l'argent et avec cet argent contourner les sanctions financières internationales mais également financer le programme nucléaire du pays. Aussi simple que ça. Pour le coup, la roadmap est bien posée. Ils avaient déjà volé un demi-milliard à une plateforme qui s'appelle Coincheck et ils sont super connus pour aller taper des exchanges avec évidemment le soutien du gouvernement là-bas, pour aller récupérer de la liquidité qu'ils vont pouvoir faire passer à côté de différentes sanctions internationales. Mmh. Pour le coup, le FBI ne fait que mettre des mots sur le fait que ils sont très actifs, la Corée du Nord, sur ce genre de pratiques, évidemment, mais particulièrement en crypto, parce que mine de rien, c'est pas des données qui valent de l'argent, c'est directement de l'argent. Et autant dire qu'ils vont avoir, en tant qu'État, un petit peu moins de mal à accéder à des plateformes pour changer ça contre de la monnaie fiduciaire.
Oui, ils sont pragmatiques. Alors, plus cool quand même. Dans un instant, Claire, on parlera de Telegram aussi. Il y a de nouveaux développements cette semaine. Il faut que vous nous disiez, là, les tout derniers développements sur Telegram, ça intéresse toute la communauté crypto. On en parlait déjà la semaine dernière dans la première de la saison et il y a des nouveautés cette semaine. Mais avant d'en parler, plus cool que la Corée du Nord, le Japon. On va manifestement, et on le disait tout à l'heure en sommaire, vers une forte baisse, une incroyable baisse de la fiscalité sur le Bitcoin au Japon. Sacré signal, et pourquoi faire ?
Le Bitcoin est plein d'autres choses. Le Japon traverse une période qui est délicate en ce moment. On l'a vu également le 4 août avec ce qui s'est passé sur le Nikkei qui a perdu 25%, hein, l'indice le plus suivi dans le pays. On sait également que le yen a du mal. C'est justement pour soutenir le yen qu'il y a eu une hausse des taux d'intérêt directeurs, ce qui va un peu à l'inverse des mouvements qu'on voit en ce moment. Et ils sont en train de retravailler toute la fiscalité du pays. Et dans les différents constats qu'il y a eu, il y a le fait que 55% d'impôt, c'est l'impôt actuellement en vigueur sur les crypto-monnaies au Japon, et bien ça fait qu'il y a tout simplement rien qui se développe. d'un point de vue crypto là-bas. Alors rien, évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a quelques plateformes, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont passés à côté. Ils se font un constat très simple. À 50% d'impôts sur ces crypto-monnaies, à quoi bon prendre le risque d'investir dans les crypto-monnaies? Les entrepreneurs ne le font pas. Et les entrepreneurs qui ont envie de le faire vont dans d'autres pays. Ils ont donc perdu un marché. Et ils se rendent donc compte que, ben, ils ne prennent pas d'impôts ou pas suffisamment sur les crypto-monnaies parce qu'il n'y a pas d'activité à cause de ça. Ils vont donc proposer un changement drastique qui n'est pas encore appliqué, qui sera appliqué apparemment en 2025, pour passer de 55 à 20% d'impôts et pour pouvoir cultiver un intérêt cryptographique et finalement peut-être réussir à générer des revenus en prenant 20% d'impôts sur une activité cette fois-ci existante.
Effectivement, c'est la fameuse courbe de l'affaire, hein. Vous savez, à partir d'un certain niveau d'impôts, en fait, les rentrées fiscales diminuent parce que les gens tout simplement produisent moins. Ça sert à quoi de produire autant si on est fiscalisé de plus en plus? Donc à partir d'un certain niveau d'impôts, bah, c'est contre-productif. Voilà.
Sur un marché aussi risqué en plus, il faut vraiment avoir envie de prendre des risques pour ne pas gagner. Ouais. Quoi.
Non seulement vous avez, voilà, vous avez les risques, mais en plus vous avez la fiscalité. Compliqué. Donc le Japon va faire marche arrière, on peut le dire clairement, et passer sa fiscalité de 55 à combien? 20%.
20%.
Bon. Telegram, comme promis, Claire Balva avec nous, les suites de l'arrestation du patron de Telegram en France. Il s'est exprimé d'ailleurs ces dernières heures. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau cette semaine dans cette affaire, Claire?
La grosse nouveauté, c'est justement ce message de Pavel Durov sur Telegram qui donne son point de vue, sa vision. Alors lui, il considère que son arrestation a été erronée. Il a d'ailleurs été surpris par le fait qu'il a été arrêté. Et surtout, il dit qu'il est assez choqué par ce qu'il considère être, je résume, une sorte de campagne de dénigrement autour de Telegram et par toutes les accusations qui font passer Telegram pour une sorte de messagerie complètement anarchiste où chacun fait ce qu'il veut. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ben non, il y a des modérateurs et sur Telegram, il y a des millions de messages qui sont supprimés chaque jour lorsqu'ils sont en lien avec des activités ou des opinions illicites. Maintenant, ce qu'il dit aussi, c'est que derrière Telegram, bien sûr, il y a quand même des valeurs. Et que bah, quand la Russie a demandé à Telegram des clés pour avoir accès à des messages et que Telegram a refusé, ils sont partis de Russie. Quand ça a été la même chose avec l'Iran, ils ont été bannis là aussi d'Iran. Et donc Telegram n'exclut pas de partir d'un pays s'ils se rendent compte que leurs valeurs sont incompatibles avec ce pays-là. Mais finalement,
je crois qu'il n'exclut pas de partir de la France d'ailleurs, après ce qui est arrivé au patron de Telegram.
Il n'exclut pas, mais il tend quand même la main aux autorités françaises, puisqu'il dit, mais attendez, on avait une adresse email, moi j'ai collaboré avec l'État français, notamment pour empêcher des actions de terrorisme. Donc son message est quand même globalement assez bienveillant envers les autorités, même si, oui, il le dit, il partira effectivement de tout pays avec lequel il y a un achoppement au niveau des valeurs.
Après, la petite différence entre la Russie, l'Iran et la France, c'est que la justice ici est indépendante, hein, on le rappelle quand même.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Pardon.
J'allais ajouter qu'on a eu également dans les dernières heures quelques changements dans la FAQ de Telegram, en tout cas en anglais, qui met en lumière la possibilité pour les utilisateurs de signaler certains nouveaux messages. Alors, c'est une nouveauté dans la FAQ. Certains vont dire que le code source de Telegram n'a pas changé, donc on n'est pas encore vraiment sûr de ce qui se passe du côté de Telegram, mais c'est pas impossible que Telegram soit en train d'opérer petit à petit un changement de politique, même si c'est juste en façade et pas dans le code, pour agiter le drapeau blanc vis-à-vis des régulateurs.
Sa plus grosse surprise, c'est qu'il a toujours échangé avec la France, qu'il est disponible à l'ambassade des Émirats Arabes Unis et qu'il dit que la France n'a pas essayé du tout. Enfin, il n'y avait pas un discours bloqué, il n'y avait pas de refus de... Enfin, il a été totalement surpris et malgré ces discussions et cette bonne entente, bah, de se faire arrêter sans trop de détails au départ.
Effectivement. Après, c'est ce qu'il dit. Hein, voilà. On va suivre l'enquête.
Évidemment.
C'est un dossier qu'on va suivre chaque semaine dans les pros des cryptos. Surfing Bitcoin, vous y étiez la semaine dernière, hein, Claire.
Oui,
c'était bien.
Tout à fait.
C'était différent des autres années.
C'était très bien. Alors, moi, je suis intervenue à la journée grand public, qui était gratuite. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes, de touristes et de locaux qui venaient de Biarritz pour en apprendre plus sur les cryptos et sur Bitcoin. C'est vrai qu'on a vu pas mal de gens être, je pense, assez surpris finalement de la vision qu'il y avait à Surfing Bitcoin sur Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies qui étaient considérées comme des altcoins, voire pour certains des shitcoins. Et ça a surpris pas mal de monde dans l'audience. Moi, ce qui m'a surpris à titre personnel, c'est que j'ai eu dans l'audience des questions qui me semblaient être des questions de 2016, quoi, sur la technologie blockchain, voire sur la traçabilité de la blockchain, sur des thèmes qui me paraissaient très lointains, mais qui finalement sont encore assez actuels dans la tête de plein de gens.
Merci à tous les deux, Lydia. Allez, 5 secondes, Owen. Ah, vous, je crois que vous vouliez ajouter un petit mot, non?
Je crois que vous allez me demander combien.
Combien d'abonnés sur la chaîne YouTube Asher?
180... Je sais plus.
Oh, bah ça valait le coup. 180. On arrondit. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci. Une nouvelle saison des pros des cryptos. Claire Balva pour des vlogs, Owen Simonin, sa chaîne YouTube, donc Asher. Venez vous abonner pour l'aider à arrondir par le haut. Hein. Hey, on n'est pas très loin de ces 700 000 abonnés bientôt. On espère que vous les annoncerez bientôt. Vous êtes aussi à la tête de Meria. Bon week-end à tous. We'll be right back.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.